André Saglio, le suicide du monde. Plus que 1000 ans. La Terre décrivait lentement une ellipse très longue autour du Soleil rouge. Elle s'était aplatie jusqu'à prendre la forme d'une monstrueuse lentille de neige, et son équateur en avait craqué en un gouffre circulaire, bouche sombre et fumeuse, qui béait vers les suprêmes rayons de chaleur et de lumière. Et c'est dans la tiédeur de ce trou que s'était réfugiée la vie. Or, il ne restait de vivant que des plantes rabougries, quelques bêtes velues, et des hommes plus nombreux que les bêtes et les plantes, car ils avaient mieux su se défendre contre l'invasion mortelle du froid. Ils avaient creusé le roc de galeries profondes qui s'approchaient du centre bouillonnant encore, et leur industrie leur avait permis de façonner des machines qui pouvaient leur faire suivre dans sa marche tournante la clarté du jour. Ces derniers hommes avaient en effet une grande science. Ils avaient amassé toutes les découvertes des innombrables générations qui les avaient précédés. Ils en étaient arrivés à simplifier l'effort physique jusqu'à un point infime. La nourriture même n'exigeait point la peine d'une chasse quotidienne, car depuis longtemps, on était parvenu à tirer de l'air et des minéraux les principes nécessaires à l'existence et à les matérialiser. Les maladies étaient toutes prévenues ou immédiatement guéries, et chacun était assuré de s'éteindre doucement à un âge très reculé par la seule usure de ses organes. L'intelligence n'avait trouvé des bornes immuables que lorsqu'elle avait cherché la cause et la raison de la vie. En cela, elle était demeurée au point où l'on fut toujours, quand on essaya de discerner une base de vérité absolue dans les affirmations séduisantes des religions. Tout se réduisait à la constatation de l'universel mouvement et à la déduction logique d'une impulsion première, mais la figuration de cette impulsion, son origine et son terme échappaient aux efforts du cerveau qui s'emplissait de ténèbres sitôt qu'il en abordait le problème. Les hommes de la terre mourante n'étaient donc pas heureux, malgré leur insouci des besoins matériels et leur sécurité contre la souffrance corporelle, car ils avaient plus le loisir de penser que les hommes d'autrefois, distraits par la lutte de chaque jour. Et toute leur pensée aboutissait à une éternelle interrogation qui restait sans réponse. Et dès que les enfants arrivaient à l'âge de réfléchir, un pli grave se dessinait sur leur front et ne les quittait plus. Les mots rire, joie, espérance étaient inusités comme appartenant à une époque antique et naïve. Beaucoup de gens avaient renoncé à sortir dans la vallée, car leur tristesse devenait plus âpre à la vue du soleil s'inclinant dans la brume rose du ciel où ne s'éteignait jamais plus le poudroiement des étoiles. Ceux-là préféraient se confiner dans les pièces souterraines où l'on avait accumulé des débris des civilisations anciennes, et ils essayaient de vivre en imagination les temps passés avec l'obstination du vieillard qui rappelle sa jeunesse. Pourtant, ils ne s'accoutumaient point à rencontrer dans les livres, jamais, ou sur les fragments sculptés des temples, d'archaïques invocations à un Dieu juste, bon et sage. Quand eux-mêmes ou tout autre de leurs frères de la tribu des hommes étaient obligés de faire allusion à l'inexplicable force-principe, ils employaient un mot qui contenait le triple sens de souffle, aveuglement et folie. Mais chacun évitait cette expression lugubre qui éveillait la haine en évoquant des milliers de siècles de souffrance et de fatals écoulements. Dans le monde sans besoin matériel, il n'y avait pas de riches ni de pauvres. Tous avaient le même droit à se servir des choses nécessaires, des machines qui évitaient la fatigue, de la nourriture amassée au lieu public, des bibliothèques et des musées. Par tradition, ceux qui avaient la plus longue expérience surveillaient l'ordre de toutes les institutions qui maintenaient la vie et prescrivaient aux jeunes hommes les courts labeurs utiles à la communauté. Parmi ces vieillards, il en était un qui avait pénétré plus encore que les autres toutes les connaissances du passé. Il s'appelait Orguzalam. Sa figure glabre semblait de cire. Sur son front, la ride de réflexion mélancolique qui marquait tous les hommes était profonde comme une blessure, et ses yeux, couleur d'eau, ne reflétaient rien des choses passagères. Il vivait avec sa descendance nombreuse dans un souterrain qui avait la vue sur un point de la vallée par une grande ouverture close d'un cristal. Depuis longtemps, il ne se déplaçait pas, comme beaucoup de gens âgés, pour suivre la lumière vivifiante du soleil. Mais, enfoui au milieu des fourrures, il restait constamment tourné vers l'infini, alternativement noir et vermeil, dans une contemplation silencieuse. Parfois, cependant, les siens voyaient ses lèvres remuer comme s'il se parlait à lui-même, et son doigt tracé sur son genou d'invisibles chiffres. Or, un matin, comme le prodigieux astre de fer surgissait, Orguzalam vint à la crête de la muraille à pic qui fermait la vallée devant lui. Il vit un long scintillement sanglant, une miraculeuse frange de rubis qui suivait le caprice de la roche aussi loin que le regard pouvait aller. Il comprit que c'était la glace qui atteignait enfin, dans son implacable marche de destruction, le dernier refuge de l'humanité, et un cri s'échappa de sa poitrine, car ses calculs avait mesuré exactement le temps très court qui s'écoulerait entre la venue de ce signe et l'extinction complète de la vie. Plus que 1 000 ans. Le son couru par les galeries rebondit aux parois, si tragique que tous ceux qui l'entendirent accoururent. Mais ils ne lurent rien sur la vieille figure déjà immobilisée, et n'aperçurent point la flamme allumée derrière les yeux sans couleur. Le murmure de la foule emplissait la chambre, et il sembla seul tirer le vieillard de sa rêverie. Il contempla longuement les hommes, les femmes, les petits-enfants. Il soupira profondément, puis il commanda qu'on allât chercher des hommes âgés, réputés comme les plus savants, et aussi 10 hommes jeunes, parmi ceux qui récemment avaient fondé de nouvelles familles. Vers l'heure de midi, l'un après l'autre, ils entrèrent tous les 20, s'inclinèrent silencieusement devant le maître et s'assirent en demi-cercle. On lui dit 20 frères, tant le sentiment de l'inutilité de prévoir avait figé leur visage pour une lassitude identique, ou plutôt 20 portraits d'un seul homme, ralliés dans la pierre aux différents âges de sa vie. Quand les portes eurent été closes, Olouzanam parla. Il évoqua, en paroles magnifiques et brèves, la formation du monde, gaz embrasé dans l'incompréhensible. Rien. Il dit la lente solidification de la sphère, l'apparition de la vie, la naissance de l'intelligence dans une nervure de bête accidentellement épanouie en cerveau. Il parcourut l'âpre lutte des myriades de générations pour durer, pour s'agrandir, pour parelle à parcelle le domaine de la pensée. Il montra les victoires qui, en orgueillissant les hommes, les avaient affolés de l'illusion d'être les instruments directs d'une divinité de justice et de bonté, cependant qu'en dépit de leur progrès, la terre commençait à mourir. Et la voix continuait, brûlante de haine. Homme, je m'adresse en vous à l'humanité tout entière. La grâce, la glace nous gagne. Aujourd'hui, elle touche à notre trou. Demain, elle y entrera, et dans 10 siècles exactement, la dernière palpitation de la vie s'éteindra sous son linceul vitreux. Homme, laisserons-nous l'œuvre humaine disparaître, ainsi, sans nous révolter contre l'aveugle force qui nous a fait surgir? Laisserons-nous le monde retomber dans le néant par une torture plus courte, mais plus effroyable encore que celle que fut l'enfantement de l'intelligence? N'aurons-nous pas même une malédiction digne du génie créé par notre race contre ce jeu dément qui produisit la terre et son peuple, et qui tue celui-là du mouvement même où il en est arrivé à sa perfection? Nous sommes unis comme des frères. Nous avons fait disparaître la souffrance physique. Nos descendants pourraient vivre une douce existence grâce à l'expérience laborieuse de leurs ancêtres, sans souci même de la mort, puisqu'ils se verraient revivre en des enfants destinés à jouir comme eux des belles et bonnes choses qu'ils n'ont connues. Et c'est à ce point culminant qu'il faut accepter que l'intelligence humaine, sombre par la douceur du douleur du corps, jusqu'à n'être plus dans le cerveau du dernier des hommes, dans 1000 ans, que la lueur d'instinct de la bête fauve, hurlant devant la mort, et venant enfin s'abattre en râlant sur les débris de la civilisation, dans le noir et dans la glace. Non, non, révoltons-nous, hommes de la terre. Trompons la chose monstrueuse, sans yeux et sans oreilles. Et puisque nous ne pouvons rien contre l'anéantissement, volons-lui au moins 10 siècles de souffrance. Que l'humanité périsse d'un coup dans une apothéose, et que cette vieille terre qui eut la gloire de voir surgir l'âme dans la matière s'effondre avec nous, au lieu de continuer à tournoyer encore des milliers d'années dans l'ennui, dans l'infini, planète désolée et morte, épave du monde. Il continua longtemps encore à clamer terriblement jusqu'au moment où le rouge soleil déclinant échancra son disque au bord de la montagne. Et les 20 hommes debout, gagnés par son émotion grandiose, criaient avec lui des anathèmes et gémissaient les bras tendus vers l'immensité comme un cœur répondant à un chant de mort. Trompons le souffle, changeons la loi. Que l'homme ait sa revanche, enfin. Dites-nous, maître, ce qu'il faut faire. Dites-nous votre procès, maître. Alors le grand vieillard, d'un geste, les serra autour de lui, et baissant sa voix jusqu'à un ton à peine perceptible, comme s'il eût exécuté une invisible puissance rôdeuse, il expliqua son formidable plan. En des points qui cerclaient la terre, pénétrer jusqu'au feu et faire jaillir en sources ardentes qui rendraient au monde une lumière et une chaleur oubliées depuis longtemps, jusqu'à ce que les flancs nourriciers fussent vidés. Mais avant cet épuisement fatal, à un moment donné, lui seul, Rukuzanam, serait juge. La terre disparaîtrait d'un coup. Il était inutile qu'il expliquât son moyen. L'anéantissement, il le jurait, serait aussi prompt que le battement de la paupière et si complet que la poussière du chemin pourrait paraître une grossière à côté de la vapeur qui marquerait à l'instant la place du monde. Ce fut comme une folie d'activité qui secoua l'humanité figée depuis des siècles dans la morne attente de l'inévitable fin. Par toutes les galeries souterraines, les êtres s'affairaient, fourmillaient, si denses qu'on eût cru que subitement l'espèce avait décuplé. Une rumeur énorme de voix grondait à travers le labyrinthe des voûtes inondées de lumière électrique et se mêlait au fracas des machines roulant et frappant. Des portes ouvertes en terrier au flanc de la vallée ruisselaient sans interruption des files de travailleurs et tout le jour, les faibles, les femmes, les enfants, les vieillards s'accrochaient dans l'étage aux pentes poudreuses, comme de mouvantes plaques de lichen, pour voir progressivement l'ouvrage libérateur. Cependant, en effet, 6 colossales foreuses montaient vers le ciel crevant la brume vermeille de leurs aiguillons d'acier. Puis elles se mirent à vivre avec des halètements rythmés, défonçant l'argile, pulvérisant le granit et déversant autour de leur base des cascades de débris qui s'amoncelaient en cratères. Enfin, un matin, presque en même temps, elles touchèrent le globe liquide de feu qui formait le cœur de la planète, et la lave se précipita dans les puits avec une clameur d'une troupe de bêtes, fit sauter jusqu'aux glaces lointaines les carcasses des machines et gicla en l'air, si blanche, si éclatante, que l'on ne vit plus le soleil et que le ciel sembla s'être décoloré. Les jets dépassèrent les montagnes, puis leur fête s'élargit en parasol et commença à retomber en grosses gouttes qui s'écrasaient sur le sol avec un bruit mou dans un évanouissement d'étincelles. Six lacs bouillonnants se formèrent en quelques heures, s'allongèrent au fond de la vallée et coulèrent les uns vers les autres en fleuves bombés qui se joignirent. Ce soir-là, pour la première fois depuis la création du monde, il n'y eut point de nuit pour l'humanité. La lumière et la chaleur étaient insoutenables près des fontaines de feu. Mais en s'en éloignant, chacun pouvait goûter successivement l'ardeur des midis tropicaux qui furent à l'âge moyen de la terre, ou la molle douceur des rives méditerranéennes, ou plus loin encore, au juste intervalle des deux volcans, la sublime sensation du crépuscule d'un printemps dans le pays oublié où la Seine passait, lourde d'îles fleuries. Ce furent ces régions charmantes et poétiques que beaucoup préférèrent. Les jeunes gens erraient deux par deux, s'abandonnant à la joie du présent, heureux du silence de leurs pas sur le tapis de gazon, qui, magiquement, s'était mis à reverdoyer. Mille ruisselets d'eau descendirent en chantant des murailles rocheuses où reculait la glace. La sève monta au vieux tronc noir et les paras de bourgeons ainsi que de pierreries violettes et roses, de menus animaux engourdis dans les crevasses apparurent. Rien ne fut plus admirable que cette immense journée qui ne finissait point, où tout renaissait exquisement et violemment. Et quand les couples étaient là, ils s'étendaient où les avaient menés leurs courses sans but, dans le parfum des jeunes plantes, et s'endormaient les mains mêlées. Et près d'eux, ignorant la crainte, les oiseaux blottissaient leurs têtes menues dans leurs plumes ébouriffées, et les insectes s'immobilisaient au calice des fleurs dans la mollesse du pollen. Nul ne songeait plus que cette minute d'or de l'éternité dut finir. Nul, sauf le vieil Rogozanam, dans le même temps que les machines fouillaient le corps usé de la terre, ils étaient enfermés avec des livres des âges passés qui gardaient le secret d'inventions chimiques si destructives que, d'un commun accord, les hommes avaient un jour renoncé aux guerres pour sauver la face. Mais les formules de ces matières foudroyantes, si compliquées qu'elles fussent, était enfantine encore pour un cerveau qui rassemblait la science de l'humanité tout entière. Quand avait apparu le panache rayonnant du puits le plus voisin de sa demeure, Orgouzalam avait trouvé une combinaison explosive, la plus effroyable qu'on eût jamais rêvée. Il avait entendu des cris d'allégresse des êtres répandus dans la vallée, tandis qu'il la recueillait, cristallisée, une paroi des corps nus, poudre si légère et d'une nuance si précieuse, qu'on eût dit la dépouille des ailes de papillon. Il en eut assez pour remplir une petite cassette. C'était plus qu'il en fallait. Il en scella le couvercle et la fit descendre au fond de la plus souterraine des galeries désertées par les hommes. Un fil la reliait à sa chambre, et ce fil était terminé par une minuscule machine brillante qui avait l'apparence, dans le coin du plancher où il la laissa, d'une bulle d'or oubliée après un jeu. Alors, tout étant prêt, le vieillard reprit sa place coutumière en face de la mer ronde dont il brisa le cristal, et l'arôme de fleurs, mêlé au tintement des rires dans l'air tiède, vint l'envelopper de caresses. Mais son âme restait rigide comme son visage. Il parcourait en pensée l'immensité et devinait les univers d'étoiles, cheminant interminablement en cercle et se succédant les uns aux autres selon l'inexplicable impulsion du souffle aveugle. Son esprit se représentait sans bornes, les foyers de vie s'allumant, rayonnaient un moment et s'éteignant par une agonie semblable à celle de la terre. La haine l'emplissait énorme. Il eût voulu que le principe moteur du jeu atroce des choses puisse peindre son imagination avec la forme tangible que lui donnaient les naïfs croyants d'autrefois pour supposer la contraction furieuse de sa face lorsque l'humanité, volant sa loi de malheur, échapperait d'un seul coup à la progressive étreinte de ses griffes glacées. Il en arrivait à trouver cette vengeance même intime de tuer la terre avant son heure. Il aurait voulu anéantir tout ce qui était mouvement dans l'éternité. Il y aurait eu 82 jours que la vie aurait été rendue à la vallée terrestre, quand Orgouzalam, après un assoupissement de quelques heures, fut éveillé par un gazouillement frais et charmant. Il regarda devant lui et il aperçut sur la mousse parfumée de violette un enfant nu, le dernier de ses arrière-petits-fils, qui agitait ses membres roses en d'incertains efforts, tout joyeux de se sentir vivre. Et tandis que le vieillard le considérait, il eut soudain l'impression qu'un léger voile subitement descendait sur le monde. Il leva les yeux et vit que la torche de feu à l'extrémité de la gorge verdoyante avait cessé d'atteindre le niveau des hautes murailles. Les entrailles de la terre étaient épuisées. la lave commençait à baisser. Nul que lui, sans doute, ne s'en était encore aperçu. Il fallait agir avant que l'angoisse n'entrât au cœur des hommes. Aouazoulam se leva. Mais tout à coup, une pensée traversa son esprit qui éclaira son visage d'une lueur surhumaine et triomphale. Il prit le petit être souriant, le tendit vers le ciel, au bout de ses bras, comme pour faire mieux voir à l'inconnu la raillerie immense de son geste sans force, puis il le posa sur le plancher de la chambre, très doucement, et regarda sur ses menottes tendres, sur ses genoux, le petit erra, trébucha. La boule d'or attira son regard. Il s'en approcha avec des cris et des rires, étendit ses doigts tremblants, perdit l'équilibre et s'abattit de tout son faible poids sur le jouet. Une poussière d'étincelles fleurit un instant dans l'immensité, puis s'éteignit, et l'œil sanglant du soleil chercha vainement le monde.